Georges les coudes, le cycle patibulaire, Gentilly. Le long du littoral, entre Nieuport et Dunkerque, les douaniers donnent la chasse à Criel Pintloun, dit l'Espro, à cause de sa petite taille et de son timbre doré. Lorsque chôme son aventureux métier, Criel, ordinairement terré dans les dunes, quitte, à l'exemple des lapins, ses garennes sablonneuses pour descendre dans les plaines fertiles du Vern à Mbarque et rançonner les femmes émaillant la plaine. Il préfère la dîme sur la huche, le saloir, le poulailler et même en croire les grigous sur le magot enfoui dans les mystérieuses cachettes. Les déprédations de Criel lui ont aliéné les terriens assez porté cependant pour les irréguliers de sa trempe, auxquels ils servent souvent d'entremetteurs et même de receleurs. Mais audacieux et bravaches, vrais trompe-la-mort, Criel se moque bien de leur mauvais gré. Il méprise trop le rustre sédentaire et servile pour le ménager, et s'en faire un allié et ne se fie depuis longtemps de longues années qu'à son complice à quatre pattes, son fidèle chien d'appeur. Jamais il ne s'embrigade non plus comme un subalterne dans le troupeau de ses pareils sous les ordres d'un conducteur. Le soleil disparaît sous l'horizon. Par couple, les douaniers s'embusquent derrière les haies. Attention, un homme vient à passer dans le sentier voisin. La mine d'un valet de charrue regagnant le chaume où l'attend sa platée de pommes de terre. Personne ne songerait à soupçonner ce porte-blaude qui déambule du pas le plus paisible, main en poche, sifflant avec nonchalance la complainte de la dernière kermesse. Et cependant, ce pitot n'est autre que notre Criel. Quoi, ce boulot ? Criel futé en personne. Pour la circonstance, il est râblé et guetté de tabac, son bedon n'est qu'un bidon, et sous l'enflure arrondie de sa blouse bleue, il charrie une outre d'alcool flamand. Or, la nuit est sombre et pluvieuse. Criel, armé d'un court fusil et d'appeur d'un collier à pointe, se glisse comme des ombres dans une maison isolée. L'homme en ressort, portant sur les épaules une charge attelée comme le sac des fantassins. Il s'avance, l'œil et l'oreille tendus, en décrivant de bizarres zigzags le long des bois, dans les chemins creux, au fond des fossés à sec, en évitant avec soin les éclaircies de la plaine, les côtes dénudées et les métairies dont le chien de garde signalerait le passant d'inconnu. Une silhouette suspecte se dessine au loin. Criel se couche à plat ventre. Dapper tombe en arrêt et s'efface de son mieux. On ne voit, on n'entend plus rien. Non, c'était une fausse alerte. En avant, déjà, la frontière est franchie. La contrebanderie traverse la périlleuse zone de la première ligne. Allez, encore une lieue, rien qu'une lieue. Et les voilà en sûreté. L'Espro, son chien et leurs marchandises. Après les bons coups l'été, musard insouciant, vautré ou couché sur le dos, au flanc des talus herbeux, des canaux ou entre les mamelons des dunes, il passe des journées entières à s'étirer les membres, tandis qu'alentour les grillons noirs et jaunes comme lui raclent leurs élytres et que l'humide et vibrant paysage semble se dissoudre par instant dans le blanc soleil fantôme. Mais souvent, en hiver, goguenard et d'humeur sociable, gardant l'incognito d'un prince, il parcourt le pays au grand jour, s'éternise dans les cabarets, au jeu de cartes lampes secs et ses mains ramassent et rabattent sans trêve les cartes poisseuses. Et si d'aventure, après les parties, la conversation s'engage sur les exploits attribués à l'Espro, on doit le perdre contenance et de s'esquiver, le matois, avec une verve intarissable, enchérit encore sur ses hauts faits, et les partenaires haletants ne se doutent pas que c'est l'Espro qui leur fait ces mémoires. Krill frotte par terre et par eau. Sur une bouée, à peine plus solide qu'une allège, il transporte jusqu'à Rouen pour plus de 5 000 francs de tabac d'Arlebec et de Roisin, raconte un pêcheur de Corksid, attablé avec l'anonyme fraudeur. Et comme les autres, écarquillent les yeux. Oh, Krill accomplit bien autre chose, intervient le vantard. Il a traversé la mer de Gravesend à Dunkerque pour frauder des couteaux et des lainages d'Angleterre. Krill ment et se moque de son auditoire, mais il prend plaisir à bâtir sa propre légende, à entretenir le prestige qu'il inspire. Il aurait garde de rectifier les portraits d'une laideur repoussante qu'on fait de sa personne. On dit « Pintloun, fils du diable ». Et Krill d'enchérir. « Oh non, c'est le diable même. Moi qui vous parle, je l'ai souvent rencontré dans Dunkerque lorsqu'on le cherchait à Lombardside. On lui tendait des pièges sur l'estrade et en même temps on le signalait en pleine contrée fertile. On le guettait sur mer et il opérait à la côte. » Aussi les vieux rajeunissent en son honneur les histoires de flibustiers, de loups-garous et de coureurs de grève. Depuis l'époque des chauffeurs, des grille-pieds et des bandes de Jean de Licht et de Beckeland, on n'eût jamais parlé d'un scélérat plus subtil et plus audacieux. Même les amoureux, dans leur tête-à-tête, s'entretiennent du terrible bandit et les exploits de l'escroc, émeuvent les jeunes filles et les font se rapprocher peureusement du rusé coquin qui les narre. C'est souvent de ce gueux que Sander Bischbosch, surnommé Clerge de Neuven par ceux de Lampernis, tant il est droit et rond, parle à sa promise Gentilly, une des plus appétissantes filles du village, avec ses tresses blondes, ses grands yeux d'un bleu sombre, un peu trouble comme l'océan, l'air sage et même fier. Mais il faut croire que le bon Sander s'y prend maladroitement, car ses fréquentes allusions à l'escroc ne semblent pas alarmer la fillette potelée. Chaque soir, au retour de son champ, assis sur Jabiquel, son grand cheval flamand, qui charrie le trait noir, chargé tour à tour de la herse ou de la charrue, il met pied à terre devant la porte de Gentilly et entre dans la maison sous prétexte de rallumer sa pipe. Et pour faire apprécier la rudesse de son cuir de bon travailleur, il cueille dans l'âtre, entre ses doigts calleux, la braise dont il a besoin et la met, sans se dépêcher, en contact avec le tabac. Gentil ne se récrit pas plus à cet exploit qu'au récit des aventures de Pintloun. Jamais elle ne tremble pour les durillons du pharaon, et la main de son Sander flamberait comme celle de Mucius Evola, avant qu'elle songeât seulement à lui tendre les pincettes. Un gaillard de la vie de tout le monde, ce Sander Bischbosch, quoique soit un bien petit garçon devant Gentilly. Un qui n'a pas froid aux yeux. Peut-être le seul paroissien de la paroisse qui ne reculerait pas à l'apparition de l'escroc. Au contraire, il attend ce mécréant de pied ferme, ne cesse-t-il de déclarer à Gentilly. Il voudrait bien se remesurer avec lui. Oh, si on le laissait faire, s'il était gendarme, oh, le brave Sander. Fils unique, Clerge de Neuven possède de la terre au soleil, 3 vaches à l'étable, sans parler du fameux Jabiquel, le plus grand cheval du pays, le vrai support, le vrai chandelier qu'il faut à ce cierge de Neuven. À la procession, le ferme gonfalonier plonge dans l'extase les filles du village, emportant, sans fléchir les hanches, la bannière de Sainte Véronique. Aussi la mère de Gentilly, femme positive dont la ferme périclite depuis la mort de son Bax, Nonquel Vergent, pleure de joie en inventoriant et en supputant sur les doigts les richesses qui échèreront à sa fille. La commère passe le temps à tourner, à retourner en esprit la belle robe bleue, de vraie soie, comme pour une reine, et le voile blanc, aussi long que celui d'une autre gentille dame. Et les lourds pendants d'oreilles descendant jusqu'aux épaules, et toutes les merveilles dont Sander a promis d'adorner Gentilly dans quelques jours, aussitôt après la rentrée des moissons. Cependant, Gentilly garde sa contenance réservée. « Ma fille a toujours été un peu timide, dit la mère Vergen. C'est un agneau de douceur, vous verrez, Sander, quelle tendre basine vous aurez là. » En attendant, Sander voudrait bien la presser contre son gilet. Mais il a beau revenir à la charge et lui parler constamment de cette canaille de Pintloun, en donnant de grands coups de poing sur la table et en sacrant comme un cosaque. Lui, le pieux Xavérien et l'édifiant congréganiste, Gentilly ne fait pas un pas pour venir chercher protection dans ses bras contre le détestable mécréant. Gentilly sursaute à ses explosions, mais regarde le braillard d'un air singulier, plus dédaigneux qu'admiratif. « Savez-vous quoi ?» dit un jour la vieille Vergen à son futur gendre. « Vous avez l'air trop résolu, trop crâne pour que Gentilly prenne peur à l'idée d'une visite de l'Esprot. Vous lui communiquez votre vaillance et elle rougirait de paraître si poltronne que c'est pareil à côté d'un mâle de votre espèce. « C'est vrai, la mère, » opina le grand garçon, et il se promit de changer de tactique. Ce soir, à la visite habituelle, concurrence faite à la salamandre légendaire, il dégoisa mais sans jactance. Les récoltes rapporteront de l'or cette année. Oh, j'aurai pas assez de mes greniers pour les loger. À condition toutefois que ce misérable. Voulez-vous que je vous dise une chose, Sander Wesbosch, l'interrompit cette fois Gentilly. Non, ce n'est pas pour vous chagriner, car vous êtes un honnête garçon. Mais à votre place, je ne descendrai plus de cheval avant d'arriver à votre ferme du Dickraff, et je ne perdrai pas mon temps à faire des comptes à une particulière qui ne veut pas se marier. Le pauvre cierge de Neuven demeure Camus, bouche bée, comme s'il venait d'attraper un coup de soleil. La vieille mère de Gentilly fait sauter dans le feu la pleine marmitée de pommes de terre qu'elle n'entendait que secouer. « Mais qu'a-t-elle dit, notre fille ? Elle veut rire, Sander, pour sûr !» clame la vieille. « Non, je pense ce que je dis, » confirme Gentilly. « Croyez-moi, tout est fini entre Sander et moi. » Suffoqué, l'amoureux ne trouve pas un mot à articuler, et après quelques gloussements qui ne sortent pas, et de grands gestes dans le vide, il se retire, les jambes se dérobant sous lui, ployant pour la première fois sous le fait, lui, le droit cierge de Neuven. La veuve court pour le rappeler, mais Gentilly arrête sa mère par le bras. « Inutile, ma mère, j'en tiens pour Pintloun, et je ne veux pas d'autre homme que celui-là. » « Ah !» vocifère la vieille paysanne, qui voit s'écrouler son rêve de fortune. « Ah ! J'ai mis la commère en sautillant de la chambre à la cour et de la grange à l'étable, tant ses bras et ses jambes lui démangent. « Ah ! Mais c'est ce que nous verrons, ma fille !» Et lorsqu'elle rentre dans la chambre, trouvant Gentilly toujours aussi sotte, aussi extravagante, voilà qu'elle ne parvient plus à se contenir, et qu'elle se met à la battre, à la trépigner, à la traîner par terre, sans que la grande bestiasse se défende et se révolte, si bien qu'elle-même doit s'arrêter exténuée, plus démolie encore que l'impassible rebelle. Alors la vieille se met à geindre, à se tâter, comme si c'était sa fille qui l'avait battue. Le lendemain, elle essaie de gagner la têtue par la douceur. « Dis, mon enfant, dis-moi, il est venu ici se réprouver. Il t'a acheté un sort. Raconte-moi tout, veux-tu ?»« Non, répondit Gentilly, qui n'a plus desserré les dents depuis la veille, en jetant sur la paysanne son troublant et mystérieux regard couleur de mer houleuse. « Non !» dit-elle avec une farouche résolution. « Non, Pitlou n'a jamais mis le pied chez nous. »« Mais où l'as-tu vu alors, malheureuse, parle ?»« Mais je ne l'ai ni vu ni entendu. » Je ne le connais que par tout le mal que le village raconte. Et pourtant, il me semble que je l'ai toujours là, devant les yeux, et la pensée me remplit tout entière. Et cela bourdonne dans ma tête comme sa si douce musique de l'orgue, et j'en suis toute parfumée, comme si j'étais couchée dans les foins. Oui, plus ils le disent laid, repoussant et sordide, plus je me le représente aimable, appétissant, plein de ragoût. « Oh, tais-toi, perdu. Oh, tu vois bien qu'il t'a ensorcelé, le Lucifer. Sainte Marie, c'est le diable même qui parle par la bouche de mon innocent enfant. » Et elle s'arrache des mèches de cheveux gris et tombe à genoux et tord les bras vers le ciel. Cependant, Gentilly s'entête. Elle paraît sourde, aveugle, insensible à tout ce qui se passe autour d'elle. Exhortation, menace, bourrade, autant de moyens essuyés en pire perte. C'est comme si plus rien n'avait pris sur son être ensorcelé. Elle rappelle à Sander une maugrabine de la foire, une de ces bohémiennes à coquiner avec l'enfer, qu'un sacripant de son espèce traversait de longues aiguilles à tricoter, sans que la matine perdît une goutte de sang, ou poussât un gémissement, ou fît seulement la grimace. Il revient pourtant à la charge, le grand Sander. Il n'a garde de passer son chemin le soir, comme elle le lui a conseillé. Mais elle ne l'écoute même pas. Alors, exaspérée, Basile Vergent ne le manège plus. Elle congédie ses filles de basse-cour et impose à Gentilly les corvées, les gros ouvrages, labeur rebutant. « Je briserai bien ta mauvaise tête !» gronde la fermière aux abois. « Tant pis si c'est le seul moyen d'en déloger le diable. Tu crèveras ou tu te revêtras avec cierge de levaine. » En vain, elle lui a représenté que cette rupture avec Sander entraîne leur ruine et qu'elles vont devoir quitter la ferme et mendier par les routes. Cette extrémité n'a rien de redoutable pour Gentilly. Foulée comme la dernière des serves, elle peine, laboure, s'exténue vaillamment, sans une plainte, sans un mot, soutenue par on ne sait quelle force surhumaine. Cependant, la nouvelle de l'inqualifiable toccade de Gentilly s'ébruite, se propage, et engendre presque autant de scandales et de rumeurs que les déprédations de l'escroc, quoique la mère Vergent et le digne Sander aient tout fait pour cacher cette honte. Les veuves trop mûres et les filles montées en graines, qui avaient envié à Gentilly les récoltes prospères, les vaches laitières, la ferme du dit Graff, le grand cheval Jabiquel, et surtout le superbe Blondin qui porte si crânement l'étendard de Sainte-Véronique sans plier les reins, glosent et cancanent et brodent à l'envi sur le compte de cette puante et s'en vont colportant toutes sortes de vilainies et d'atroces histoires. À les en croire, il ne s'agit pas de simples imaginations ou d'un califourchon. L'esprit en personne vient bel et bien trouver Gentilly la nuit dans la soupente. Il prend le chemin des toits, comme les matous. Parbleu, cet exercice n'offre aucun danger aux amoureux de son espèce. Jeff Mahalbank affirme l'avoir épié et suivi un soir, comme le gaillard sortait de chez sa sorcière. Et comme ce Jeff le suivait de près et allait l'atteindre, le sacripant prit l'apparence d'un mulot et s'évanouit dans une rigole. Sur les instances de la veuve Vergent, le curé intervient pour appeler la malheureuse au devoir et à la raison. La mère demanda même au sage pasteur de recourir aux exorcismes. Mais celui-ci, moins crédule que ses ouailles, prétend que sur les âmes troublées, une bonne parole exerce plus d'effet que les incantations d'un autre âge. Et pourtant, le digne prêtre échoue lui aussi dans ses tentatives. Quoi qu'il ait trouvé pour ébranler la monomanie de cette malheureuse, de ces accents évangéliques qui illuminent et régénèrent les consciences. Quant au grand Sander, bon, il court et rôde dans la campagne, presque aussi fou que sa triste fiancée, mais aussi agité qu'elle est impassible. Il ne désespère pas encore de faire revenir Gentilly sur sa détermination. En cachette, il voit la mer, car il n'ose plus affronter la physionomie frigide et pleine d'aversion de son ancienne promise. Et en secouant le poing, il a juré de tuer cet exécrable Pintloun. Naturellement, la maladie de la jeune Vergent ajoute à la célébrité de l'insaisissable bandit. Plus que jamais, on s'occupe de ses méfaits, de ses prouesses. Sur les conseils de Serge de Neuvaine, pour que la malheureuse s'entende plus parler de ce damné dont la réputation lui a tourné la tête, à bout de remède, la veuve se décide à séquestrer Gentilly dans sa soupente. Mais de son galetas, la recluse surprend tout ce que les gens de la ferme se chuchotent sur l'escroc lorsque l'air des repas les rassemble dans la salle d'en bas. Elle pâlit, seules ses pommettes s'enflamment comme si l'enfer lui soufflait constamment au visage le feu de ses forges éternelles. La captivité de Gentilly dure depuis une semaine, lorsqu'un soir, l'oreille collée à la trappe, elle entend causer Sander au pied de l'escalier avec la basine Vergent. Sander raconte d'un ton réjoui que cette fois on tient Criel, Pintloun, bloqué dans les dunes non loin de Coxide. Pour lui couper toute retraite, les pêcheurs ont brûlé la lèche avec laquelle l'aventureux gaillard se risquait sur les flots quand on le serrait de trop près. On a tiré des coups de fusil. Un soldat de la ligne a été tué dans l'escarmouche. Après avoir envoyé force mitraille aux bandits, les traqueurs ont suivi une traînée de sang. Mais après une heure d'une course enragée, ils n'ont ramassé que le chien d'appert. Blessée à mort, la maudite bête, au lieu de se traîner sur les pas de son maître, s'était lancée d'un autre côté afin de dépister les chasseurs. Grâce à cette ruse, l'espo n'est pas encore pincé. Mais la chasse continue, et il faudra bien qu'il se rende, à moins que le diable, son maître, ne l'ait emporté. « Bravo, d'appert !» murmura Gentilly avec une sorte d'admiration envieuse. Et la mort du fidèle chien la décide. L'espo est seul à présent. Ce même soir, elle attend que tout le monde soit couché, puis elle enjambe la fenêtre, tombe sur le fumier, se relève sans s'être fait de mal et s'engage dans la campagne. Elle marche à l'aventure, tout droit vers les dunes. Quelque chose l'avertit qu'elle arrivera encore à temps. Les battements de son cœur redoublent, elle presse le pas, gravit les sablons, il doit être là. Ses suggestions ne l'ont pas trompée. Exténué de fatigue, hâve, poudreux, ensanglanté, à demi vautré, dressé sur ses coudes, le menton dans les poings, sa canardière à portée de la main, l'espro apparaît tout à coup à la jeune fille. C'est bien ainsi que Gentilly l'avait rêvé. Brun, crépu, plus basané qu'un pêcheur de la côte, nerveux comme un lynx et flanqué comme un chat de gouttière, des yeux aussi noirs mais aussi inflammables que la poix. « Le voilà !» se cria le Pintloun, ce mauvais bougre. Et Gentilly trouve ce noireau, ce sécheron, autrement magnifique que le grand Sander. En la voyant venir à lui, résolu, foulant le terrain, croulier d'un pied aussi sûr qu'une coureuse de grève, indifférente aux piqûres des épines noires et des argousiers dans la clarté douteuse du matin, Kriol Pintloun se dresse d'un bond, attend son fusil, épaule. Oula, que veux-tu? Que viens-tu faire ici?
Vivre avec toi, répondit-elle avec simplicité, comme si c'était chose convenue depuis longtemps entre eux.
C'est bien toi, Pintloun?
Oui, c'est moi, et après?
Oh, les 100 florins de la prime t'auraient-ils alléché par hasard? Dans ce cas, tu as compté sans ton homme, mon ami. Alors, le pied ou le tire?
Mais je veux vivre avec toi, répète Gentilly, sans se laisser intimider.
Ah, oh, ça te moqueras-tu de moi? Ricana le bourru. Vivre avec Pintloun? Ah, t'es pas dégoûté, la génisse. Pourquoi pas t'offrir tout de suite à un diable? Allez, assez de baliverne. Alors, décampe.
Pour toute réponse, elle continue de marcher vers lui.
Par exemple, s'éclame Kriol. Oh, voilà une qui a du toupet.
Puis, comme elle le rejoint, après l'avoir dévisagé un instant,
« Eh bien, fait l'irrégulier, d'un air perplexe en se grattant l'oreille, lui, le gaillard qui ne s'étonne de rien. Si c'est là ta diablesse d'envie, et quoique toutes les femmes de la terre ne valent pas le chien qui les salauds m'ont tué, approche et on verra. Au fait, t'arrives peut-être à propos. Tu sais marcher à ce que je vois. On me sert de près. Les bonnets à poils se vendent déjà de me tenir. Je crève de faim. »
Justement, elle avait eu le bon esprit de se munir de son souper de prisonnière, et elle lui passe le quignon de pain noir. En le dévorant à belles dents, il poursuivait, sans même la remercier.
« Mais c'est pas tout. Je vais manquer à mes engagements. Veux-tu filer pour un Dunkerque? Demande-le, dit Latonne. Demande-lui que tu viens de la part de l'Espro. Il te remettra 60 kilos de vervic avec lesquels tu t'arrangeras pour passer de l'autre côté. D'ailleurs, il s'instruira en conséquence. Si j'en réchappe, tu me trouveras chez Latonne à ton retour. Pour ta gouverne, les habits verts ont des fusils et leurs chiens des crocs. Bon salut et bonne chance. »
Sans rien dire, Gentilly dévala de la butte. Lui se dirigea d'un autre côté. Leslie, redevenu indifférent, sceptique, il sifflotait une bourrée. 6 jours se passèrent. Parvenu encore une fois à dépister les traqueurs, l'Espro se trouvait dans l'arrière-boutique de Latonne à Dunkerque. Gentilly était en retard, mais l'Espro ne s'inquiétait que de la provision de tabac. L'aurait-elle volé? Se disait le contrebandier. Le 7e jour, elle reparut, souriante, radieuse, mais blanche comme une morte. Elle traînait la jambe et ses vêtements de paysanne aisée s'effilochaient à présent comme ceux d'une bagasse. Avant de prendre le temps de la dévisager, il interpella d'un ton rogue.
« Ah, c'est toi! Ben la vraie, c'est pas malheureux !»
Puis, remarquant sa pâleur et le désordre de son équipement,
ah ben, alors, que dis-tu du métier, ma fine? Pas commode, les gabelous, hein? Heureusement que la perte n'est pas grande. Mais t'es égal, mauvais début, et si tu m'en crois, nous arrêterons les frais.
Mais tu te trompes, ils ne m'ont rien pris. Voici l'argent. Kriol agrippe et compte rapidement la poignée de numéraire, le coule dans son gosset et, un peu radouci, examinant son auxiliaire.
Mais pourtant, ils t'ont trouvé la peau. T'as les jupes passées à la bidon rouge.
Pauvre, leurs chiens m'ont fait des agaceries.
Et tu as pu leur échapper?
Oui, au moyen de ceci. Et elle lui montra un méchant couteau de poche.
Kriol daigne sourire d'un sourire approbateur et même s'informer encore des bobos faits à la petite.
Et où es-tu blessé ?
Oh, à la cuisse, une simple éraflure.
Mais cela ne t'empêchera pas de marcher.
Oh, que non.
À la bonne heure, en route alors.
Et c'est par ce coup d'essai que Gentilly obtint de pouvoir accompagner l'ombrageux Pintloun. Elle le suivit, toute dégonillée, pieds nus, tremblant la fièvre, mettant à le servir, à deviner ses intentions, un empressement qui ne se relâchait pas. Ambitieuse de lui faire oublier le chien d'appert, qu'il regrettait, dont il ne parlait jamais, en ses fréquents accès d'humeur, sans tourner à l'avantage du quadrupède la comparaison entre celui-ci et Gentilly. Elle lui épargnait les risques et les corvées pour qu'il ne s'exposât pas. C'était elle qui, en pays découvert, allait puiser de l'eau potable. Elle gueusait pour lui d'étape en étape, ou se rendait même en maraude. Lorsqu'elle revenait les mains vides, après avoir essuyé les rebuffades, les insultes et même les brutalités des paysans, ou après des démêlés avec les gardes-côtes et les gabelous, que ses attitudes louches et vagabondes commençaient à intriguer, son amant, exaspéré par les fringales en proie à une colère blanche, la battait sans pitié. Il la jetait par terre, la daubait en plein visage. Elle ne murmurait pas, ne détournait pas la tête, se laissait défigurer, mais de grosses larmes coulaient de ses yeux fixés sur lui, avec une tendresse à toute épreuve. Il l'aurait tuée qu'elle eût trouvé cette fin naturelle, et venant de ses mains bénies, enviable. C'était son chien de garde. Pendant que l'espro donnait à la belle étoile ou dans une grange mal fermée, elle faisait sentinelle mieux que ne lui fait d'appert. Elle en était arrivée à oublier son sexe. D'ailleurs, Pitlou ne lui témoignait pas plus d'attention qu'à une bête. Ils vécurent des mois ainsi, souvent séparés par des expéditions. Jamais elle ne songea à profiter de la bifurcation de leur route pour s'arracher à cette servitude. Au contraire, lui absent, elle se rongeait l'âme, angoissée, haletante, après son retour. Il la retrouvait douce, baissée, aimante, comme il l'avait quittée. Elle accourait et obéissait au moindre signal. Ne se plaignait jamais sous la charge, souvent foulée et strapassée comme une bête de somme. À part lui, Pintloun finissait par se féliciter de cette acquisition. Il ne lui parlait que rarement, ou s'il s'adressait à elle, c'était pour la rabrouer. Cependant, une nuit d'hiver à Dunkerque, comme il se retrouvait après une expédition très lucrative, où elle s'était particulièrement distinguée, et que Pintloun s'était payé le luxe d'un vrai lit dans une auberge à peu près habitable du port, en entendant sa vigilante complice claquer des dents et grelotter sur le carreau, il céda à un mouvement de pitié, et, sans aucune idée de paillardise, il l'appela auprès de lui sous les draps. Respectueuse, un peu craintive, ne pouvant croire à une telle condescendance, elle hésitait. Alors il l'assomma par un juron. Toujours, grâce à sa belle humeur, il se fit qu'en la sentant près de lui, il commença par la taquiner, puis s'échauffant, la trouvant plus potelée qu'il ne le croyait. Pour la première fois depuis leur vie commune, il la traita en femme, prodigalement. Et cette nuit, tant fut immense la félicité de Gentilly qu'elle eût voulu agoniser contre sa poitrine. Le lendemain, pourtant, ne lui témoigna pas plus d'égard. Elle, par contre, loin de se montrer exigeante, fut plus prévenante et plus humble que jamais. Depuis ce rapprochement, il la traitait à la fois en maîtresse et en bête de somme. Les raclées finissaient par des caresses, et réciproquement, les étreintes amoureuses dégénéraient en effroyables tueries. Mais, pour mieux mériter les faveurs du mal,
elle endurait les mauvais traitements du bourreau. C'était à la fois son souffre-douleur et son souffre-plaisir. Cependant, à Lampernis, le grand Sander se représentait les formes désirables de la fugitive. Souvent, il parlait de courtiser une autre paroissienne. Il n'aurait eu qu'à choisir. Il avait même commencé à exaucer les souhaits d'une belle soupirante. Mais le grand Jabiquel continuait à s'arrêter à la porte de Gentilly. Alors, Sander, mettant pied à terre, entrait et s'entretenait de l'enfant perdu avec la veuve Argent, et n'avait plus le cœur à de nouvelles poursuites. C'était le troisième été que Lespeau et Gentilly passaient ensemble. Un soir, que la lune éclairait l'étendue, un de ces soirs trop clairs, funestes aux travailleurs de l'ombre, Pintloun, amolli par la tiédeur parfumée et chatouilleuse de l'atmosphère, avait traité sa compagne avec une douceur plus continue que d'habitude. Peut-être son cœur allait-il enfin se fondre et payer autrement que d'amour matériel le dévouement de sa compagne. Tout à coup, le contrebandier dressa l'oreille et murmura avec une certaine sollicitude « Ne bouge plus, ils viennent !» Gentilly n'eut que le temps de s'étendre sur le dos parmi les genévriers, comme elle faisait dans ses moments d'alerte, tandis que son homme courait se blottir plus loin. Mais on les avait vus. Pantelante, elle entendit des détonations. Elle reconnut la voix brève et corsée du vieux fusil de Krill, le bruit d'une planche qu'on déchire, puis d'autres coups de feu plus grêles, mais nombreux et répétés. Des lueurs blanches déchiraient la nuit bleue. Une balle siffla non loin de sa cachette, et Gentilly aperçut, dans les rayons lunaires, Pintloun trébuchant comme un ivrogne et s'appuyant à un buisson pour recharger son arme. « Foutu !» murmura-t-il d'une voix rauque, en lui jetant un regard dont elle devait se rappeler la détresse, même mêlée de rage, et vaincu, il s'abattit dans les oyas. En le voyant tomber, les agresseurs, gendarmes et paysans qui s'étaient tenus prudemment à distance, accoururent et l'empoignèrent à la fois. Le grand Sander, à la tête de 4 à 5 gars de Lampernis, voulut l'achever à coups de sabot, comme une bête puante. Mais Gentilly se jeta devant lui, avec un cri atroce, et Cierge de Neuvaine s'arrêta net en se voilant la face, tant elle avait l'air d'un spectre. À l'aube, on charroya Pintloun, tout blessé qu'il était par les routes vicinales, dans un de ces tombereaux où les toucheurs alignent les veaux menés au marché. Il s'agissait de le conduire à la prison de Bruges. On prit à peine le temps de panser sa blessure. Épuisé par l'hémorragie, il gisait sans connaissance au fond de cette caisse, sur un peu de paille, et malgré sa faiblesse, quoiqu'il n'eût pu seulement lever la main, les gendarmes l'avaient ligoté. À la nouvelle de sa capture, les ruraux, que son seul nom avait si longtemps terrorisés, s'abeutaient sur son passage. Aux étapes, les badauds payaient la goutte aux gendarmes pour pouvoir s'approcher du brigand. Grimpés sur les roues et les cholettes, il se penchait, riait à présent de voir si chétif, si piteux, si misérable, à la merci du premier venu. Il s'enhardissait à le pincer, à lui arracher un toison de cheveux, et ses soubresauts de douleur les mettaient en joie, et il se vengeait par ses privautés de toute la chair de poule qu'il leur avait donnée. À Lampernis, l'arrestation du pendard déchaîna une véritable kermesse. Des sarabandes se nouaient autour du tombereau d'infamie. Well, well! C'était donc pour ce vilain moineau que Gentilly avait conduit le crâne Sander Bishop du Cierge de Neuvaine. et le rimeur de l'endroit ajouta la complainte composée sur les exploits du fléau de la Westflandre, un couplet de circonstances dans lequel on associait Gentilly à la gloire du bandit. L'espot à son espot, quelle honte, quel opprobre! Seul Bishbosh ne jubilait plus. Revenu de sa stupeur à la vue de sa misérable amante, faite comme une brûleuse de moisson, le beau Sander, incapable de rancune, avait voulu ramener Gentilly à la veuve Vergent, mais les gendarmes s'étaient interposés en exhibant un mandat d'arrestation lancé aussi contre elle, complice de son détestable amant. Ô folle, folle Gentilly, mais comment en était-elle arrivée là? Instrument d'un homicide et d'un voleur, elle, la promise du riche Sander Bishbosh, qui se réjouissait de la doter de plus de bijoux et d'atours que n'en possèdent les madones les mieux achalandées de la côte des Flandres. Gentilly, les mains attachées sur le dos, marchait derrière la charrette entre les gendarmes. Elle se refermait dans un mutisme d'idiote, et habituée au coup, elle ne sentait même pas la crosse du soldat qui lui labourait de temps en temps les épaules. Elle tressaillait qu'en entendant le patient se plaindre et demander à boire. Quand la sinistre cavalcade traversa l'Ampernis, Sander Blanche-Bosch alla se réfugier chez la vieille mère de Gentilly et ne se montra pas, comme si c'était à lui de rougir et d'avoir honte. Et les honnêtes gens blâmèrent le pauvre garçon de s'être rendu en un tel moment chez la mère d'une voleuse. Ce Sander fut encore plus déraisonnable en avançant à la veuve Vergent, complètement ruinée à présent, un peu du bel argent destiné à Gentilly pour payer l'avocat de cette indigne espèce. Le défenseur plaida l'inconscience de sa cliente et réussit à la faire acquitter après 3 mois de détention préventive. Un matin, les gens de l'Ampernis la virent rentrer au village, jaune, maigre, les yeux cernés et creux. Et à l'inexprimable scandale de toute la paroisse, elle portait sur les bras un petit diablotin crépu, noir comme un pruneau, aussi remuant qu'elle semblait énervée. La digne progéniture de Pilsoun, bien que ça, absorbée dans la contemplation de son petit, elle ne parut même pas remarquer le hourvari que causait ce retour. Elle ne témoigna aucune joie de son élargissement, mais accompagna machinalement sa mère. Peut-être eût-elle préféré partager le sort de son homme, condamné aux travaux forcés pour le meurtre du Lignard. Les caresses de la vieille Vergent, qui sautait de joie, malgré ses rhumatismes, dans la cour du palais, après l'acquittement, avaient laissé Gentilly aussi indifférente que les corrections d'autrefois. Volontairement, elle se confine avec son bébé dans cette soupente d'où elle s'évada une nuit néfaste. Ne la rencontrant jamais et les sachant sans ressources, les bonnes gens prétendent qu'elle vogue la nuit et continue le métier de son abominable amant. Et la réprobation frappe peu à peu la veuve aussi bien que la fille. Malgré les criailleries et les indignations, Serge de Levennes, le riche fermier du Dickhoff, continue de s'occuper de ces pauvres gens. Encore, si ce n'était que par charité. Mais croirait-on que, ensorcelé à son tour, il veuille encore du bien à cette fille mère? Et ce qu'il y a de plus inconcevable, c'est que la pécore continue de le rebuter. Impatienté par sa froideur, le bonasse Sander se risque à lui dire « Oh, Gentilly, tu mériterais bien qu'on brisât cette mauvaise tête pour le mal que tu t'es fait à toi-même et à ceux qui t'aimaient. » « C'est vrai, répond Gentilly, mais si Dieu le voulait ainsi. » Profitant de cette douceur encourageante, le digne Sander continue.
Eh bien, si tu te repentais, essayais de redevenir brave et raisonnable, tout pourrait encore s'arranger. Oui, nous partirions, nous irions vivre ailleurs, loin des mauvaises âmes. Gentil, reviens à toi. N'auras-tu pas une bonne parole? Mais elle, de hausser les épaules, de courir à son enfant et d'embrasser ce fils de Pintloun avec une exaltation qui ne laisse plus aucun espoir au jeune fermier. Mordu de jalousie, il n'a pas pu retenir une exclamation de dégoût. C'est à ce vilain esprit que vont ses caresses. Malheureux cierge de Neuven, oh, il est temps qu'il sorte, elle lui arracherait les yeux. Quelques mois après, la vieille mourut de chagrin. Il fallut vendre la bicoque, le lopin de terre et les instruments de labour. Les dettes payées, il ne resta plus à Gentilly que quelques écus. Sans avoir rien communiqué de ses intentions, elle quitta furtivement le pays, comme il y était rentré, le poupon sur les bras, ne daignant pas même se retourner pour voir une dernière fois le chaume sous lequel elle avait dormi tant de nuits heureuses et où sa mère venait de fermer les yeux pour de bon. Elle s'en alla demeurer à la ville aux environs de la prison où était enfermé Criel Pintloun. Elle n'apercevait que les hautes fenêtres étroites comme des meurtrières et obstruées d'épais barreaux, trouant de leur ligne noire la maussade muraille de briques sales. Lorsqu'elle s'éternisait sur le trottoir, le nez levé, essayant de flairer derrière laquelle de ses fenêtres se morfondait son maître, les sentinelles dont elle contrariait la promenade de long en large la repoussaient brutalement et répondaient par des charges à ses informations suppliantes. Pourtant, une recrue plus compatissante que les autres soldats du poste apprit à la pauvresse que Plintoun avait été transféré de la prison cellulaire dans une maison de force au cœur du pays, d'où il ne sortirait probablement que vêtu de bois et de sapin et les pieds en avant. Sa résignation imprévue à cette nouvelle ne fut pas la chose la moins déconcertante de la vie de l'Espot. Peut-être n'y croyait-elle pas. Quelle que fût son impression, elle continua de vaguer aux environs de la première prison de Pintloun, sans songer un instant à émigrer à sa suite. Son bâtard grandissait, et pour le nourrir et l'élever, ses derniers écus mergés, elle chercha du travail. À présent, elle s'employait à rendre des services aux soldats du poste, aux geôliers, aux commis. Elle faisait les commissions, fourbissait les marmes, astiquait les buffleteries ou rangeait le ménage des guichetiers célibataires. Elle finit par faire partie du grand édifice morose et désolé. Elle éprouvait une sorte de tendresse respectueuse pour les gendarmes qui avaient blessé et capturé son homme. Sentiment de grossière admiration pour la force armée et victorieuse. Les jours de fête, lorsqu'elle voyait les pandores en grande tenue, luisants, bien peignés, la peau rose, moustache cirée, le colbac irréprochablement brossé, le baudrier blanchi à la craie, elle les dévorait des yeux, fière d'avoir collaboré à ce gars-là. On aurait dit qu'elle essayait de se concilier ses soldats tout puissants en faveur de son fils, à l'exemple des pauvres dévots qui s'approvisionnent d'indulgence pour les jours de tentation. Mais lorsqu'elle les voyait certains soirs au retour des expéditions, poudreux et couverts de sueur, l'air implacable, sabre au clair, cavalcadant aux côtés des paniers à salade, et que leur haute silhouette s'engouffrait deux par deux sous le portail béant et noir, et que les battues de leurs chevaux résonnaient dans la préau derrière les murailles, elle gagnait peur, appelait le polisson qui jouait dans la rue, fermait sa porte à double tour, et pressait le gamin contre elle avec une sollicitude et des angoisses de poule qui tremble pour son poussin. D'autres fois aussi, lorsque, se prenant des disputes avec le fils de Gentilly, les méchants voyous, pour le réduire à quilla, lui jettent à la face ce briquet déshonorant. « Fils d'assassin, fils de voleur, fils de l'escroc !» La bougresse fonce comme une lionne sur la bande agressive, dégage en distribuant force taloche dans le tas le gamin écrasé par le nombre et ne rentre que lorsqu'elle les a mis en fuite à coups de pierre. Des années se passent encore. Le fils de Pintloun devient un grand garçon, bien découplé, de figure éveillée, mais de mine réfractaire, comme celle de son auteur. Choyé, gâté par sa mère, il a contracté des habitudes de paresse et de débauche, boudant les métiers réguliers, rêvant bamboche et escapade. Les soucis et les tracas de la mère redoublent. Et chez l'espot se produit ce sentiment bizarre. Plus le garçon prend la taille, les habitudes du corps et la physionomie du condamné, plus Gentilly se désintéresse du souvenir de son terrible amant. Son amour maternel se double d'une tendresse plus exaspérée, moins quiète. Insensiblement, Gentilly confond le jeune gars rôdeur de carrefour et batteur de pavés, le voyou précoce et impudent avec le hardi malfaiteur d'autrefois. Maintenant, lorsque devant elle on fait allusion au prisonnier, la rude travailleuse regarde son interlocuteur d'un air hébété, comme si elle ne savait pas ce qu'il veut dire, et elle continue sa besogne. Une pièce administrative tombe chez elle par la poste et l'avertit officiellement du décès du contrebandier. Pas plus de larmes qu'à la mort de sa mère. Elle regarde son sacripant de fils à l'air rogue et effronté, comme pour dire que ce trépas lui est égal à présent. Dans sa maladie faiblesse pour le gamin, elle ne sait quoi inventer pour le retenir auprès d'elle. Elle n'a rien à lui refuser. Elle se prive, se saigne pour lui. Elle travaille nuit et jour, nettoie, fait des quartiers, ravaude, repasse. Tout cela pour qu'il puisse aller boire, fumer dans les bouis et jouer au bouchon avec les bonteurs et les jolis efflanqués de sa trempe. Elle le veut aussi, propre, bien coiffé et bien chaussé. Elle entretient leur petit ménage comme un nid d'amoureux. Et toute vieille, fourbue, ratatinée, courbattue, sa belle fleur de santé et de femme flétrie par les privations, les brutales aventures et les quotidiennes dégelées, elle redevient coquette, soigne sa mise, sa nippe, sa tif, comme s'il s'agissait pour elle d'épouser le gros cierge de Neuvaine. Et tous ces frais de coquetterie et toutes ces attentions séduisantes pour le jeune espo. Ah, n'est-ce pas ainsi qu'elle se représentait Pintloun, le contrebandier? Durant ses veilles mal conseillères à Lampernice, dans les ténèbres de sa mansarde. Lassée par ses chatteries et ses caresses et ses baisers importuns, le jeune drôle ne se gêne pas pour la repousser durement, et comme elle insiste, peu à peu lui aussi prend l'habitude de la battre. La première fois que le vaurien s'oublia à ce point, la pauvre femme se mit à rire. À présent, la ressemblance avec le passé devient complète. L'autre Pintloun n'avait-il pas commencé ainsi? Le gamin prit goût à l'exercice. Rentrait-il ivre après une perte au jeu? Il passait son déboire et sa colère sur le dos de la pauvre femme. Et la résignation presque extatique de ce misérable corps, renversé et immobile, la prière de ses yeux, l'imploration sans recul et même sans impatience de cette bouche qu'il achevait d'édenter, ne faisait que le mettre hors de ses gonds.
Cependant, le jeune coq tirait sur ses 16 ans. Il s'amusait à des jeux plus agréables. Le poil lui venait aux lèvres. Et les polissonneries entre mauvais capons, manquant de ragoût, il commençait à pincer les petites gaupes du quartier. Un samedi, Gentilly rentrait exténué d'un terrible nettoyage dans une maison de la rue passante sur laquelle débouchait leur impasse. Oubliant les ampoules saignantes à ses pieds et ses bras ouverts par des corrodantes lessives à l'eau de Javel, heureuse de rapporter un peu plus d'argent à son fiston et maître, elle surprit le gaillard, vautré sur son propre lit, avec une petite souillon du voisinage. Alors, emporté par la colère, aiguillonné par une monstrueuse jalousie, son instinct maternel s'étant perverti et devenant une véritable apparence pétance d'amoureuse, elle se jeta entre eux au grand ébahissement des polissons. Précoce comme il l'était, le jeune Pintloun n'eut pas de peine à comprendre cette anomalie. La fureur de la pauvre femme était si risible, si triste, si falote, que ce devint un divertissement pour le jeune drôle de provoquer des scènes de jalousie entre les tortillons des ruelles environnantes et la pitoyable Gentilly. Les grenuches rigolaient aussi comme des petites folles et se prêtaient volontiers aux intentions scabreuses de leurs galants. Une fois, les cyniques questionnaires attachèrent la vieille au pied du lit et, débraillés et dépoitraillés, se livrèrent sous ses yeux aux ébats les plus lestes. Le maniaque poussait des petits aboiements plaintifs de jeunes chiens à la tâche, et les méchants gamins pouffaient tellement que leur déduit devenait un simple simulacre. Ingénieux, de jour en jour, ils raffinèrent leur persécution. Mais un soir qu'ils l'avaient taquiné plus que de coutume, le gars, revenant d'une partie de garouage, trouva la folle toute pelotonnée comme une boule. Il la secoua avec sa douceur habituelle. « Hé, la vieille rosse !» Elle ne bougeait plus. Elle enfonçait sa tête grise dans un paquet de guenilles, frusque roussie par le contrebandier ou défrogusée et tachée par l'enfant. Ses hardes étaient trempées de larmes, attiédi de baisers. Et Gentilly avait fini par y noyer tout doucement son dernier souffle.